Les séminaires du Collège de France.
L'objectif que j'avais à l'intérieur de ce cours et de ce séminaire, c'était d'étudier les pratiques concrètes de lecture. Et c'était de donner la parole aux praticiens même de la lecture. Alors nous savons, et nous l'avons vu du reste également avec Ruskin et avec Proust ici même, hein, citant l'évangile de Luc, nous savons que nos manières de lire sont formées historiquement par la méthode de lecture qui est pratiquée sur les textes sacrés, pratiquée dans les églises, pratiquée dans les synagogues, pratiquée dans les mosquées. Et voilà de vrais praticiens, hein, ceux qui expliquent, qui commentent les textes sacrés pour les fidèles. Alors il se trouve que je regarde de temps en temps les textes de la messe, hein, chacun son péché mignon, sur une application qui s'appelle Liturgie. Et puis j'ai été intrigué et attiré par des commentaires, toujours fins, toujours intelligents, de ces textes de la messe dominicale, qui étaient signés Marie-Noël Tabu. Et avec toujours quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui nous intéresse ici, à savoir que la façon dont ces commentaires géraient de manière très intelligente, d'un côté les exigences de la science biblique et de l'autre les exigences de la foi et de la doctrine dans un cadre, en l'occurrence, catholique. Or, vu d'un regard extérieur, cette double exigence, hein, de la vérité scientifique, hein, sur la Bible, et puis de la vérité de foi, cette double exigence peut paraître contradictoire. Il y a une sorte de double injonction, de double bind, qui m'a intéressé en tant que problème même de lecture. Et l'on sait que, historiquement, l'Église catholique, elle n'est pas la seule parmi les Églises, a longtemps été très méfiante à l'égard des sciences bibliques, dont le Collège de France est justement un repère historique avec Ernest Renan, Alfred Loisy, et puis aujourd'hui Thomas Römer. Et donc, j'ai contacté Marie-Noël Tabu, et d'abord sa première réaction, elle m'a dit, je voulais qu'elle parle de ça, de sa manière de faire, en tant qu'exégète, que lectrice. Elle m'a dit, mais comment, je crois vous citer à peu près, comment oserais-je parler dans ce temple du savoir où Thomas Römer donne son cours, moi, simple, exégète, etc. Mais j'ai réussi à la convaincre, donc elle est là, devant nous, c'est merveilleux. Et justement, Marie-Noël Tabu fait quelque chose de différent de Thomas Römer, et c'est pourquoi sa pratique nous intéresse. Hein. Alors, qui est-elle ? Beaucoup la connaissent, parce que Marie-Noël Tabu est une figure importante du monde catholique français. C'est une laïque, hein, mère de famille, qui s'est convertie à l'exégèse biblique quand elle n'avait pas encore 30 ans, en 1968, hein, si j'ai bien lu un article. Et elle la pratique aujourd'hui presque comme une sorte d'exégète officielle de l'Église de France pour les fidèles et pour le grand public, donc sur des applications, comme je vous ai dit, dans les médias, sur la chaîne télévisée KTO aussi, où Marie-Noël Tabu a une émission hebdomadaire. Et puis, elle a écrit beaucoup de livres d'exégèse destinés aux fidèles, « Intelligence des Écritures en 6 volumes », qui est un commentaire des textes dominicaux, « La Bible des familles », un commentaire sur le livre de Job, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, la souffrance et nous », un commentaire des Actes des Apôtres sur les origines de l'Église. Et puis, il y a prochainement apparaître, je crois, un guide de lecture de l'Ancien Testament dans la liturgie. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la question que j'ai posée à Marie-Noël Tabu, c'est comment lit-on la Bible à l'intention des fidèles avec ce double bind, cette double injonction. Et donc je suis content d'avoir une vraie praticienne ici, et qui a l'habitude de parler en fait en public et à la télévision. Donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir. Merci.
Bonsoir. Alors j'ai affiché mon plan, vous le retrouverez sur le site. Évidemment, je ne prends pas le temps de le détailler, mais vous le retrouverez, je le suivrai très religieusement, comme tout ce que je fais. Alors Monsieur Marx me demande comment je lis la Bible, mais je vais commencer par vous faire un aveu. Je ne lis jamais la Bible. Désolée de vous décevoir, je ne lis jamais la Bible. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne la lisez jamais. Pas plus qu'on ne lit un poème. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vêprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. En lisant ce poème, je vous l'ai trahi. C'est pareil pour la Bible. Donc, excusez-moi, je ne lis pas la Bible. Je vais quand même répondre à votre question. Comment je lis ? D'abord, j'attire l'attention, vous l'avez un peu dit déjà, sur l'énormité de cette question. Il y a 80 ans, vous n'auriez pas pu la poser à un catholique, il y a 80 ans, on ne se demandait pas comment lire. La lecture critique, c'est-à-dire à distance du texte, qui se permet de poser des questions, était interdite depuis le Concile de Trente par un décret de 1546 qui est évidemment une réponse à la réforme protestante qui a rendu l'Église très frileuse. Et donc à l'époque, alors il n'est pas du tout interdit de lire la Bible, on le dit parfois, c'est faux. L'Église catholique n'a jamais interdit de lire la Bible, j'ai vérifié. Mais elle a encadré la lecture. Seule la traduction latine de saint Jérôme, la Vulgate, était autorisée et seule l'Église était légitime pour interpréter. Alors évidemment, on pouvait traduire dans les langues vernaculaires, y compris le français, mais toujours à partir de la Vulgate exclusivement. Reste que, de manière non officielle, les exégètes, depuis le XVIe siècle, lisaient, prenaient de la distance, vous avez parlé de Loisy tout à l'heure, là on est au XXe, mais prenaient de la distance et peu à peu le Vatican a changé d'attitude et cette nouvelle attitude s'est concrétisée par une encyclique mémorable qui a 80 ans, Divino Afflante Spiritu, dont j'ai noté au passage les éléments les plus importants. Désormais, c'était un devoir d'avoir une lecture critique de la Bible et d'abandonner la lecture fondamentaliste. Ce que j'appelle fondamentaliste, c'est prétendre à tout prix que la création a été faite par Dieu en 7 jours. Là, il y a longtemps qu'on a oublié ça, mais il y a 80 ans, je n'aurais pas pu le dire. Les insistances majeures, je les ai citées là, je les détaillerai après, bien sûr. Premièrement, recourir aux textes originaux et donc étudier les langues anciennes. Pratiquer la critique textuelle, tenir compte du caractère de l'auteur, discerner et reconnaître les genres littéraires, et enfin ne rien négliger de l'apport des sciences modernes, archéologie, histoire de l'Antiquité, sciences des lettres anciennes. Recourir aux textes originaux, étudier les langues anciennes, j'ai retenu une phrase qui vous fera peut-être sourire. Il y a maintenant tant de facilité pour apprendre ces langues, la langue hébraïque et les autres langues orientales, que l'interprète de la Bible, qui en les négligeant s'interdirait l'accès aux textes originaux, ne pourrait échapper aux reproches de légèreté et de nonchalance. J'en déduis qu'on devrait apprendre l'hébreu dans tous les séminaires. Deuxièmement, pratiquer la critique textuelle, c'est-à-dire purger le texte des erreurs, des copistes, il y en a, des glosses, des répétitions, des inversions de mots, c'est normal. Donc essayer de restaurer le texte dans sa pureté originelle. Et puis Jennifer Tamas nous a parlé le 30 janvier du phénomène de la sédimentation. Ça m'a bien amusée parce que ça on le vit tout le temps dans la Bible. Elle nous parlait d'Andromaque, moi je vais vous parler d'Esther. Esther, le livre d'Esther existe dans la Bible hébraïque. Mais ensuite, il a été complété très largement par la traduction grecque, la Septante, qui a été faite vers 250 avant notre ère. Ça a été la Bible des premiers chrétiens, la Septante. Et Racine, lui, s'est inspiré du texte grec. Troisièmement, tenir compte du caractère de l'auteur. L'exégète doit s'efforcer de discerner quel fut le caractère particulier de l'écrivain sacré, ses conditions de vie, l'époque à laquelle il a vécu, les sources écrites ou orales qu'il a employées, enfin sa manière d'écrire. Il n'échappe en effet à personne que la loi suprême de l'interprétation est de reconnaître et de définir ce que l'écrivain a voulu dire. Quatrièmement, discerner et reconnaître les genres littéraires, j'y reviendrai tout à l'heure, et enfin ne rien négliger de l'apport des sciences modernes, l'archéologie, l'histoire de l'Antiquité, la science des lettres anciennes. Alors aujourd'hui, comment je lis ? Monsieur Marx nous a dit un jour que le travail du lecteur est double, déchiffrer d'abord, interpréter ensuite. Déchiffrer. Déchiffrer, pour nous, c'est particulièrement difficile. Nous ne lisons que des traductions. L'hébreu ou le grec et quelques très 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 rares passages d'araméen dans l'Ancien Testament, mais l'araméen, le même alphabet que l'hébreu. L'hébreu, donc, pour la très grande partie de l'Ancien Testament et le grec pour une partie de l'Ancien Testament, les livres les plus tardifs, et pour tout le Nouveau Testament. Alors nos Bibles actuelles en français dérivent toutes, non pas de la Vulgate, mais du texte originel, soit hébreu, soit grec. Vous avez ici un visuel donc hébreu, j'ai choisi les deux premiers versets du premier livre de la Bible, la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voici un visuel grec, là j'ai choisi les deux premiers versets de l'évangile de Matthieu, c'est la généalogie de Jésus. Heureusement, nous avons tous des Bibles interlinéaires, je vous rassure. Voilà un interlinéaire hébreu, Dans chaque bloc de deux lignes, vous avez la première ligne en hébreu et en dessous le mot à mot. Ça facilite quand même beaucoup les choses. Un interlinéaire grec, cette fois-ci, j'ai pris deux blocs de lignes, enfin le bloc de deux lignes toujours, mais la ligne en dessous en français est une traduction. C'est l'interlinéaire grec qui est le plus en usage à l'Institut catholique, par exemple, où j'ai fait mes études. Mais ma petite fenêtre à moi, c'est pas ça, c'est la traduction liturgique. Alors la traduction liturgique n'est qu'une traduction possible parmi bien d'autres. Et là, évidemment, un risque, c'est d'être orienté par la lecture chrétienne. Alors vous me demanderez pourquoi y a-t-il autant de traductions que de Bibles différentes. Alors je vous donne la réponse que nous donnait notre professeur de grec à l'Institut catholique il y a 50 ans, et que je trouve magnifique. Une langue est un filet jeté sur la réalité des choses. Une autre langue est un autre filet. Il est rare que les mailles coïncident. Ce qui m'amène à vous parler des difficultés de la traduction. L'absence de vocalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelle à l'origine dans le texte. Un système verbal extrêmement différent, particulièrement entre l'hébreu et le français. Le champ sémantique de l'hébreu, ce que j'appelle les faux amis, vous avez ça dans toutes les langues, une pensée circulaire, la logique hébraïque n'est pas du tout la même que la nôtre. Et enfin, les caractéristiques de style. Alors, l'absence de vocalisation à l'origine, jusqu'au 9e siècle de notre ère, les textes bibliques ne comportaient que les consonnes. Les voyelles n'étaient pas écrites. Regardez ce que ça donne, j'ai écrit, c'est une phrase en français que j'ai écrite là, N-T-R-P-R-Q-S-X-C-X, vous sauriez la lire, notre Père qui es aux cieux, parce que vous connaissez la langue et parce que vous connaissez la prière. Il reste que c'était difficile tant qu'il n'y avait pas toutes ces consonnes, et elles ne sont arrivées, je vous disais, qu'au 9e, 10e siècle. Et c'est ce qui nous vaut, ah oui, j'ai oublié de vous dire ce que c'est ces trois petites lignes là, je me suis amusée à essayer de trouver tous les mots possibles que je pourrais fabriquer, puisque je n'ai que des consonnes, en rajoutant des voyelles, seulement des voyelles, je ne me suis pas permis de pluriel, aux deux consonnes PR. Regardez, je suis arrivée à 48. Vous ferez peut-être mieux. Amusez-vous chez vous. Mais c'est ce qui nous vaut une erreur de lecture de Saint Jérôme et du coup une merveilleuse statue de Michel-Ange, étrange un peu quand même, Moïse porte des cornes. Pourquoi cette histoire ? Moïse est redescendu de la montagne, il avait rencontré Dieu. Nous sommes au chapitre 34 de l'Exode. Et le texte hébreu dit « il ne savait pas que son visage » et puis il y a un verbe évidemment, trois consonnes, Q-R-N. Ah, je mets quoi comme voyelle ? Si je mets « koren » au « e », ça donne « était cornu ». C'est ce que Jérôme a lu. Si je mets « karan » de « a », c'est « rayonné ». Aujourd'hui, le texte porte Karan, mais quand Jérôme a traduit, il a traduit cornu. Il faut savoir que les cornes étaient un symbole de puissance, n'était pas du tout blasphématoire, c'était un symbole de puissance à l'époque. Et voilà donc Michel-Ange, que j'ai, le Moïse de Michel-Ange, une sculpture qui date de 1513. Jules II est mort en 1513, dans l'église Saint-Pierre-Aulia à Rome. Autre exemple, Jéhovah. Ça, c'est le pur fruit de l'ignorance, ce mot-là. J'ose jamais le dire aux témoins de Jéhovah que je rencontre. Lorsque le texte porte les fameuses quatre consonnes du nom de Dieu, YHVH, que l'on ne se permet jamais de prononcer par révérence pour le nom ineffable, on lui attribue, dans le texte hébreu, on lui attribue trois voyelles qui sont celles d'un autre mot. Et nous, du coup, spontanément, on lit l'autre mot. Et ces trois voyelles sont E-O-A, un ignorant a traduit Jéhovah. Un système verbal différent maintenant. Nos modes indicatifs, imparfaits, passé, futur, désignent la sphère du temps dans lequel se déroule l'action. Mais l'hébreu, lui, précise d'abord l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect de l'action. Elle est achevée ou elle n'est pas achevée? On dira accomplie ou inaccomplie. Et la sphère du temps où elle se déroule sera précisée par le contexte. Si bien que cette phrase que nous disons le 1er janvier, « Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner son visage », c'est une phrase du livre des Nombres, on pourrait tout aussi bien grammaticalement la traduire « Aujourd'hui, le Seigneur te bénit et te garde, demain, le Seigneur te bénira et te gardera, dans le passé, le Seigneur te bénissait et te gardait ». C'est le contexte qui va me préciser la sphère du temps. Le champ sémantique de l'hébreu, je ne m'y étends pas, mais je prends l'exemple qui pour moi est le plus cruel, le même mot désigne le péché et le sacrifice que j'offre en réparation pour le péché. Allez choisir. Les faux amis, alors il y en a des quantités. Dans le vocabulaire de saint Paul, c'est fréquent parce que Paul, vous le savez bien, écrit en grec. Les lettres de Paul sont en grec, mais il pense en hébreu. Par exemple, quand je lis dans la lettre aux Colossiens, « J'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Ça veut dire tout simplement l'œuvre de l'évangélisation pour lequel Jésus a donné sa vie n'est pas achevée, j'ajoute ma petite vie, ma chair. Ça ne veut pas dire une seconde, le Christ n'a pas assez souffert, il en manque, donc il faut en rajouter. Ce que j'ai parfois entendu quand même. Chez lui encore le sens du mot foi. C'est un écrivain juif qui m'a fait entendre ça d'ailleurs, Shalom Ben Shorin. La foi chez Paul n'est pas un catalogue de vérités à croire. C'est une attitude de confiance éperdue. Ou encore, le mot hébreu que nous traduisons « rédempteur » veut dire « libérateur ». Ce n'est pas la même chose. Libérateur, celui qui fait tomber les chaînes, c'est l'image qui est derrière. Ou encore, le mot « expiation ». Il faut savoir que le sujet du verbe « expier » en hébreu, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui rend pieux. Rien à voir avec ce que nous imaginons. C'est Dieu, alors l'image qui est derrière, c'est Dieu qui couvre les péchés des hommes, qui les recouvre pour ne plus les voir. La meilleure traduction serait « absolution ». Cinquièmement, j'ai dit une pensée circulaire. Je n'ai pas trouvé d'autre expression meilleure pour dire le fonctionnement logique de quelqu'un qui est de langue maternelle hébréophone ou arabophone, c'est le même système logique, leur pensée est circulaire, je ne sais pas le dire autrement. Alors que nous, nous faisons un discours, nous allons pas à pas, et vous pouvez déduire ce que je dis de ce qui a précédé. Enfin, les caractéristiques de style, il est très fréquent chez le prophète ou dans les psaumes d'avoir des versets en deux parties, avec ce qu'on appelle le parallélisme ou le balancement. Et en général, la deuxième partie explique la première. Je prends un exemple dans le psaume 102-103. « Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Âme et tout mon être sont synonymes. » Les enjeux de la traduction maintenant, vous le devinez avec toutes ces difficultés que nous n'allons pas manquer d'enjeux. L'enjeu théologique de la qualité de la traduction, le risque du choix idéologique, un problème majeur, on injecte toujours sa théologie quand on traduit, c'est évident. Et quatrièmement, pourquoi est-ce que j'attache tant d'importance à ces quatre lettres du nom de Dieu, YHVH, ce qu'on appelle le tétragramme? L'enjeu théologique, c'est une évidence, et les mots rédemption et expiation dont je viens de parler vous le disent. Le risque de choix idéologique, ça c'est clair. Au chapitre 9 du livre d'Isaïe, au verset 6, on trouve cette expression « le Dieu Sabaoth » qu'on traduit normalement et qu'on, je crois, doit traduire « Dieu des armées ».« Dieu des armées », ça va, en hébreu encore aujourd'hui, veut dire « armée ». « Le Dieu des armées », c'est le Dieu qui nous précède hein, aux armées. Certaines Bibles le croient mieux, et là je pense à la censure dont nous parlait Guillaume Navo. Certaines Bibles croient mieux de dire « le Dieu de l'univers », parce que « Dieu des armées », ça choque notre sensibilité actuelle. Mais c'est introduire dans le texte un universalisme qui n'y était pas du tout à l'époque. Le monothéisme date seulement du VIe siècle avant Jésus-Christ. Problème majeur, on injecte toujours sa théologie dans la traduction, et ça j'en fais l'expérience tout le temps. Si je traduis « libérateur » par « rédempteur », vous voyez bien que ce n'est pas innocent, le mot latin m'entraîne dans un registre commercial. Et enfin, pourquoi j'attache une grande importance au tétragramme, YHVH? Je crois que l'auteur qui emploie ce mot à dessein m'emmène au Sinaï. Il m'emmène devant le buisson ardent que nous verrons tout à l'heure. C'est là que Moïse a entendu cette révélation du nom de Dieu et c'est là que Moïse a compris que Dieu accompagnerait son peuple. Toujours. Donc je crois que je dois faire attention à cette présence de ce mot. D'ailleurs, il m'explique les textes bien souvent. Alors, une directive romaine du 24 octobre 2008, il y a déjà plus de 15 ans, par cette directive, l'Église s'est interdit et nous demande de ne pas utiliser, s'est interdit d'employer le mot « Yahvé », qui ne passe normalement jamais notre bouche. Alors maintenant, l'interprétation. Je vous ai annoncé que j'avais des présupposés et des vigilances. Mes présupposés. Premièrement, la Bible est une littérature ciblée pour un public très précis, un public de croyants. Deuxièmement, un auteur écrit toujours pour ses contemporains. Troisièmement, ce que j'appelle la trajectoire, c'est ce que je crois vérifier d'une maturation très lente de la religion d'Israël. Littérature ciblée pour un public très précis, un public de croyants. C'est vrai, je crois que la Bible est un catéchisme, écrit par des croyants, pour éclairer, pour fortifier leur foi. Saint Jean le dit très clairement dans le chapitre 20 de son évangile, il dit « Jésus a encore fait bien d'autres choses qui ne sont pas dans ce livre, mais j'ai écrit ça pour que vous croyiez. » Je crois que c'est vrai pour tous les livres bibliques. Alors qu'est-ce que c'est que la caractéristique du croyant ? Il est convaincu de la fidélité et de la bonté de Dieu, il fait confiance. Moi-même, je tiens des propos de croyant, j'assume, mais je reconnais que c'est un biais très particulier. Or, quel est le premier article de foi du peuple juif ? Ce n'est pas la création, comme dans les credos chrétiens, c'est le buisson ardent. Regardez ce buisson ardent superbe. Je vous rappelle le récit, nous sommes au chapitre 3 de l'Exode. Moïse, berger dans le désert, vous savez qui s'est enfui d'Égypte, berger, il a été attiré par une vision surprenante. Un buisson brûlait sans se consumer. De l'intérieur de ce buisson, il a entendu Dieu lui dire « J'ai vu, oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, alors je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Chaque fois que j'entendrai ce mot, YHVH, le tétragramme, on dit Adonai, nous, chaque fois que j'entendrai ce mot, je serai là, au buisson ardent. Deuxième point, un auteur écrit toujours pour ses contemporains. Un oracle toujours de circonstances. Les prophètes parlent pour leurs contemporains, ils ne disent pas des prédictions, ce ne sont pas des devins, même si les médias voudraient nous le faire croire. Les prophètes prononcent des prédications. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a été amené à supposer qu'à l'origine du livre d'Isaïe, qui comporte 66 chapitres, il y a en réalité trois auteurs différents. Car le contexte de ces prédications est évidemment très différent. Le premier Isaïe prêche au 8e siècle, il nous donne les noms des rois contemporains, ce sont les chapitres 1 à 39. Le deuxième prêche pendant l'exil à Babylone au 6e siècle, ce sont les chapitres 40 à 55, et le troisième prêche après le retour de l'exil à Babylone, chapitres 56 à 66. Enfin, il faut distinguer le temps de l'événement et le temps du récit. Par exemple, le fameux texte de Genèse au chapitre 22, que les Juifs appellent la ligature d'Abraham et que nous appelons le sacrifice, pardon, la ligature d'Isaac, excusez-moi, et que nous appelons le sacrifice d'Abraham. Ce texte a été écrit très, très, très tardivement, au 8e siècle, à un moment où renaissait la tentation de pratiquer les sacrifices humains. Et ce texte a été écrit pour rappeler que depuis Abraham, on sait que Dieu ne veut jamais de sacrifice humain. Troisième point, la trajectoire. Je vous parlais de la maturation de la foi d'Israël au long des siècles. Je crois, moi, qu'à partir d'Abraham, le catéchisme d'Abraham est tout petit, il n'y a pas grand-chose dedans. Et à partir d'Abraham, la foi d'Israël va parcourir des étapes de siècle en siècle. Le meilleur résumé, je l'ai trouvé dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 5. « Tu reconnais à ta réflexion que ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. » Et donc, évidemment, la Bible se fait l'écho d'une expérience religieuse unique au monde. Un Dieu tellement inattendu, je dois dire que je suis allé d'étonnement en étonnement à partir du jour où j'ai ouvert la Bible. Et je peux redéfinir en disant à la découverte du Dieu inattendu. Résumé, je voulais dire. Et ce n'est pas fini. L'Esprit nous mènera vers la vérité tout entière, a dit Jésus le dernier soir, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Conséquence de cette trajectoire, si mon hypothèse est bonne, c'est que le lexique biblique a énormément évolué. Le vocabulaire n'a pas changé. Les mots sont restés les mêmes et je vais choisir les mots qui fâchent. La colère de Dieu, la crainte de Dieu, le jugement, la justice de Dieu, la vengeance, et même le mot sacrifice. Tous ces mots sont restés les mêmes dans le vocabulaire biblique, dans le dictionnaire, si vous voulez. Mais le lexique a considérablement changé. Je vous donne quelques exemples. Sur la conception de l'Alliance, par exemple, au début, l'Alliance proposée par Dieu au Sinaï a été envisagée comme un contrat juridique comportant des engagements de part et d'autre. Et puis, à partir du prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, elle a été comprise comme un lien d'amour, de père à fils d'abord, et d'époux à épouse ensuite. Et les prophètes postérieurs parleront tous des noces de Dieu avec son peuple, et même plus tard avec l'humanité tout entière. De l'énothéisme, nous sommes passés au monothéisme, c'est-à-dire que dans une première phase, on ne rendait de culte qu'à un seul Dieu, c'est l'énothéisme, mais on pensait que les autres peuples avaient leur Dieu et ils leur rendaient des cultes. On en a des preuves. Et on a découvert le monothéisme seulement pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle. Encore une évolution sur le mot « Messie ». La compréhension du thème du Messie a considérablement évolué au cours des siècles, si bien que quand on chante à Noël, depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes, je ne peux pas m'empêcher de rire un peu. Il ne faut jamais croire les chansons. Enfin, sur la vengeance de Dieu et la justice de Dieu, encore un mot, parce que ce sont des mots difficiles. Au début, on considérait Dieu comme un comptable qui récompense les bons et punit les méchants. C'est ce qu'on appelle la logique de rétribution. À la fin de l'histoire biblique, on sait que Dieu n'est pas un comptable. Et alors évidemment, c'est dans le texte les plus récents que je trouve les plus belles phrases. C'est dans le livre de Ben Sirac, le sage, qui est un livre du 2e siècle avant Jésus-Christ, vers 180. Cette phrase extraordinaire, et je crois que le bon larron l'avait entendue. « Examine-toi attentivement, et alors, à l'heure des comptes, tu trouveras le pardon. » Ben Sirac, chapitre 18, verset 20. À noter que l'évolution, malheureusement, non, peut-être pas malheureusement, c'est humain, n'est pas uniforme selon les régions, selon les époques, selon les couches sociales. Ce qui fait que vous aurez parfois des discours parfaitement contradictoires. Dans des textes de la même époque, je prends pour exemple, après l'exil à Babylone, le discours sur l'accueil des étrangers dans les synagogues à Jérusalem, quand on est rentré au pays. Il y a eu un discours d'ouverture chez le 3e Isaïe, chez Jonas, chez Ruth, et il y a eu un discours que je dirais identitaire, chez Esdras et Néhémie. Mais vigilance maintenant. Évidemment, l'objectif ultime est de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais d'essayer d'exploiter tous les indices. Premièrement, respecter le genre littéraire. Me méfier des influences, de ce que j'appelle le prêt-à-penser. Me méfier de mes propres ornières. Remettre dans le contexte scripturaire, historique de la Bible. Et enfin, déceler les influences étrangères. Respecter le genre littéraire, il y a une variété extraordinaire dans ce livre qui n'est pas si grand pourtant. C'est toute une bibliothèque, ce livre. Mais c'est là que nous allons évidemment quitter la lecture fondamentaliste. Mon guide en Israël me dit une phrase qui me semble assez imagée. Quand un poète dit d'une femme qu'elle a des seins d'albâtre, ne va pas chercher de quelle carrière ils ont été extraits. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une fable n'a pas de vérité historique, vous le savez depuis longtemps, même chose pour les paraboles. Me méfier du prêt-à-penser. Ce que j'appelle le prêt-à-penser, je pense ici à ce que nous a dit Jennifer Tamas. Ces textes, ils ont été 1000 fois commentés. Et donc, nous sommes des lecteurs sous influence. Comment se fait-il, là vous voyez, nous sommes au paradis terrestre avec Adam et Ève, comment se fait-il que nous décrivions le paradis terrestre avec un pommier, une pomme, il n'y a ni pomme ni pommier. Il y a l'arbre de la connaissance de boni et mali. Vous connaissez le bonus et le malus. Bon, c'est tout en latin, boni et mali. Mais il se trouve que le même mot malus en latin veut dire pommier. Alors je pense que tout spontanément, les artistes ont représenté des pommiers et des pommes et nous voilà perdus. Et du coup, nous ne comprenons rien au texte parce qu'il n'est pas question de ça du tout, ni de pommes à croquer. Autre exemple, la vision de la femme enceinte dans le livre, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Nous avons la vision tout à fait fantasmagorique d'une femme dans le ciel tordue dans les douleurs de l'enfantement. Il est de bon ton d'y voir Marie, la mère de Jésus. Je suis convaincue que c'est faux, complètement faux. Mais on est sous influence. Et puis, qui dit que j'ai raison? Troisièmement, me méfier de mes propres ornières. Il faut quand même être lucide. Au bout de 30 ans de commentaires, j'ai inévitablement mes ornières, mes tics de langage, inévitablement mes petites lectures personnelles, que j'avoue, que je n'avoue pas. D'autant plus qu'on injecte toujours sa propre théologie ou ce que l'on croit savoir ou ses propres questions. Et donc, je risque en permanence d'attirer à moi le texte, ce qui est évidemment grave si je crois que c'est la parole de Dieu. D'autant plus que beaucoup de textes se prêtent à des interprétations différentes. Je reste là, dans le paradis terrestre. Le commandement donné par Dieu au paradis terrestre, « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. » Était-ce menace d'un châtiment ou mise en garde, comme on interdit à un enfant de traverser l'autoroute? Et de quelle mort s'agissait-il? Mort physique, biologique ou spirituelle? Du coup, je crois très important de travailler en groupe. Le travail solitaire n'est pas très bon. Il faut pouvoir écouter d'autres interprétations et accepter de remettre en cause les miennes, évidemment. Ne jamais oublier que je balbutie et qu'on travaille toujours par hypothèse. Pour une chrétienne, en plus, le risque est évident de faire des ponts trop vite entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Conclusion, pour éviter de tomber dans mes ornières, me méfier du par cœur, recourir sans cesse aux textes originaux, écouter d'autres commentaires et continuer à me documenter sur les progrès scientifiques. Si les progrès de l'archéologie, par exemple, nous obligent à remettre en cause certaines idées reçues, il faudra accepter de réviser notre copie. Remettre dans le contexte scripturaire, historique, politique, c'est travailler sur le texte large, ne pas me contenter du petit verset que je dois commenter. C'est aussi pratiquer ce qu'on appelle l'intertextualité. Beaucoup de faits bibliques sont rapportés dans plusieurs livres. Ne pas hésiter à les rapprocher, c'est très instructif. Et les notes de nos Bibles, une Bible comme celle-ci y aide énormément. Le contexte historique, politique, connaître l'histoire d'Israël est indispensable. Le problème, c'est qu'on la connaît principalement par la Bible elle-même. Alors où vais-je me renseigner? Chez Flavius Joseph, un historien du 1er siècle de notre ère. Il a vécu de 37 à 100, mais il est partial parfois. Aussi, un autre lieu pour se renseigner, ce sont les annales des rois contemporains d'Israël. Et nous avons par exemple au Louvre la stèle de Mécha. Mécha, roi de Moab, c'est-à-dire aujourd'hui la Jordanie, au 9e siècle avant notre ère. L'ennui, c'est qu'une stèle est toujours à la gloire de celui qui l'érige. Alors, puis-je lui faire confiance? Vous vous doutez que l'intérêt de l'histoire est évident. Par exemple, pour comprendre les controverses de Jésus avec les pharisiens, je les comprends mieux depuis que j'ai lu Flavius Joseph, qui là est tout à fait crédible. On comprend le contexte juif du 1er siècle. Ou encore les écrits de Qumran nous éclairent. Difficulté supplémentaire, beaucoup de textes sont antidatés. Par exemple, le Deutéronome que j'ai cité tout à l'heure l'est évidemment. Mais par exemple, le prophète Daniel prêche au 2e siècle avant notre ère, vers 167-164. Il prétend être le contemporain de Nabuchodonosor au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais en fait, c'est plus facile pour Daniel en période de persécution du roi grec Antiochus Épiphane, qui est effroyable, c'est plus facile de parler de Nabuchodonosor et des persécutions de Nabuchodonosor que de celles du tyran actuel. Enfin, connaître les coutumes. Je pense à la crèche de Bethléem. Je ne peux pas faire de discours misérabiliste sur le pauvre Jésus chassé la nuit de Noël par d'infâmes gens qui n'ont pas accueilli. Quand on connaît l'hospitalité orientale, c'est impensable. Et depuis que j'ai vu à Taïbé, une maison palestinienne du 1er siècle, elle ne comporte que deux pièces. La pièce à vivre pour tout le monde, jour et nuit, hommes, femmes, enfants, et les tables. Une petite jeune femme en train d'accoucher était probablement moins gênée par les regards des vaches. Enfin, essayons de ne pas commettre d'anachronisme. C'en est un grave de parler de Palestine pour l'Ancien Testament. Le mot Palestine a été brodé par l'empereur Adrien en 135 après Jésus-Christ à partir du mot philistin. Pourquoi ? Pour embêter les Juifs, parce que les Philistins sont les ennemis héréditaires. Enfin, déceler les influences étrangères. Les contacts avec les peuples environnants n'ont pas manqué. Vous savez, toutes les dominations successives sous lesquelles on a vécu. L'Égypte, l'Empire assyrien, la Babylonie, la Perse, la Grèce, puis Rome. Ensuite, la bande côtière, Israël, le long de la mer Méditerranée, est une bande de passage pour les armées comme pour les commerçants. Pour les armées, parce qu'on ne va pas traverser le désert d'Arabie quand on veut aller se battre à Babylone ou en Assyrie. On remonte le long du croissant fertile, c'est normal. Et tous ces gens-là parlent. Il y a eu aussi l'exil à Babylone, bien sûr, 50 ans. On a eu le temps de côtoyer une culture étrangère. Et je vous ai représenté ici le Code d'Hammurabi qui est au Louvre, comme vous savez. C'est dans le Code d'Hammurabi qu'est née la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Elle n'est pas née dans la Bible. Le Code d'Hammurabi date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est citée dans la Bible, je vous la donne. S'il arrive malheur pour malheur, non pardon, s'il arrive malheur, tu payeras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Cette loi était une étape, ce n'est pas fini, ce n'est pas encore le meilleur des mondes, je vous l'accorde. Mais c'était une étape, elle limitait la vengeance spontanée et elle proportionnait la vengeance à l'horreur. On venait de la Mecque qui se vendait de tuer 77 personnes pour en venger une. Je remarque au passage que dans le Code d'Hammurabi, elle est plus cruelle, car abîmer un homme important, un notable, c'est beaucoup plus grave que d'abîmer quelqu'un d'ordinaire. Dernier emprunt, je ne peux pas vous donner tous les emprunts que nous trouvons dans la Bible, mais je vous en donne un chez saint Paul, dans la première aux Corinthiens. C'est une illustration de la fable du ventre et des membres. Elle ne date pas de saint Paul, je vous rassure. Paul nous dit « L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. » J'ai éteint ? Oui. Les textes sont moins difficiles. « Il y a plusieurs membres et un seul corps. » L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Le message de Paul, c'est « Tout le monde a besoin de tout le monde. Chacun a sa place dans la communauté ». Pour ce faire, il s'appuie sur un discours très connu de ses interlocuteurs. C'est la fable d'Ésope. Je vous ai mis juste la date, le 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette fable qui s'appelle « Fable du ventre et des autres membres ». Alors, je vous la raconte. C'est l'histoire d'une révolte des membres contre l'estomac. Pour nourrir le corps, réfléchissez, les mains travaillent, les pieds aussi, la bouche travaille, et l'estomac ne fait rien. Alors un jour, on a fait grève, et la main a refusé de porter la nourriture à la bouche. Devinez la suite, l'estomac est mort, et le corps tout entier. Cette fable était connue à Rome. Alors, 7e siècle avant Jésus-Christ, elle pourrait n'être pas connue. Mais en fait, elle était connue à Rome, on en a la preuve chez Tite-Live. Et elle a été exploitée par les consuls en 494 avant notre ère, par un certain consul Ménénius, pour calmer un mouvement social. Vous voyez que nous n'avons rien inventé. Plus près de nous, bien sûr, vous connaissez celle de La Fontaine, les membres et l'estomac. Un autre exemple, c'est la parabole du riche et de Lazare, que vous connaissez, mais je ne peux pas m'étendre. Je vous rappelle seulement deux personnages, un riche, bien logé, bien nourri. Un autre, tout pauvre, malheureux, crevant de faim, malade, à sa porte. Les deux sont morts. La situation s'est retournée. Et l'on peut voir Lazare, heureux, dans le sein d'Abraham, dit le texte, et Abraham, lui, dans un lieu de torture. Au départ, c'était un conte égyptien. Et dans le conte égyptien, c'était pas tout à fait pareil. Le riche était plein de péchés et le pauvre était plein de vertus. Alors évidemment, quand ils sont morts, les deux ont passé sur la balance et leurs mérites ont été soigneusement pesés. On était dans la logique de rétribution dont je parlais tout à l'heure. Dans la parabole de Jésus, qui m'intéresse, chez Luc, il n'est pas question ni de balance ni de mérite, car Dieu n'est pas un comptable. Il est seulement reproché aux riches d'être resté riche sa vie durant, pendant qu'un pauvre crevait de faim au bout de son jardin. Alors, en conclusion, je me permets seulement de vous poser une question que je me pose tous les jours. La Bible, je l'ai découvert, est une instance extraordinaire de contestation de toute mainmise et de tout rêve de toute puissance. Depuis le buisson ardent et tout au long de l'histoire biblique, la Bible souffle un grand vent de liberté. Alors, ma question, jusqu'où puis-je, moi aussi, faire œuvre de liberté dans mes commentaires.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.